Simplifié. Le Dhamma réduit les choses à l'essentiel, parce que vous vous rendez compte que si vous essayez de vous occuper de trop de choses à la fois, vous finissez par ne rien faire de façon très satisfaisante. C'est là tout le principe de la renonciation, se rendre compte que certains problèmes sont plus importants que d'autres, de même que certaines solutions. Certaines formes de bonheur durent plus longtemps que d'autres. Donc, nous devons nous observer et nous rendre compte que nous disposons seulement d'une quantité limitée d'énergie. Si notre énergie est dispersée un peu partout, ou si nous la répartissons trop finement, nous finissons par ne rien réussir du tout. Étant donné que notre temps et notre énergie sont limités, nous voulons en faire le meilleur usage possible. Focalisez-les sur les questions qui font vraiment la différence, et soyez prêts à abandonner d'autres questions qui ne sont pas aussi importantes. Ce serait bien si nous pouvions nous occuper de tout, avoir le beurre et l'argent du beurre, mais cela ne fonctionne tout simplement pas comme cela. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas l'énergie. Nous pouvons considérer la renonciation comme un processus de simplification. C'est un mot qui sonne mieux de nos jours. Vous voulez simplifier votre vie et larguer tout ce qui n'est pas nécessaire. Mais quoi qu'il en soit, que vous appeliez cela simplifier ou renoncer, vous devez faire des choix difficiles. Et donc, la meilleure solution consiste à considérer cela comme un échange. Vous pouvez consacrer votre temps à des activités qui vous procurent des résultats immédiats, mais qui ne durent pas très longtemps, ou à des activités qui donnent des résultats plus pérennes, mais qui demandent plus d'efforts, plus de temps, plus de patience, qui requièrent plus de précision. En définitive, vous vous rendez compte que le meilleur échange est celui dans lequel vous abandonnez des formes inférieures de bonheur pour d'autres, qui durent plus longtemps, celles qui concernent les questions réellement importantes dans la vie. Quelles sont ces questions? Eh bien, il y a le fait que nous sommes des créatures actives. Nous agissons constamment, nous faisons constamment des efforts d'un type ou d'un autre. Donc la question est, comment utiliser au mieux ces efforts? Aussi longtemps que nous faisons un effort dans une direction donnée, nous voulons obtenir des résultats qui durent, même si l'effort lui-même ne dure pas. À cause de l'énergie liée à l'effort, et parfois de la souffrance et du stress qui y sont liés, nous voulons obtenir des résultats positifs, à mettre en face de ce que nous avons fait, afin que nous puissions nous retourner sur notre vie et dire « Oui, c'est une vie qui a été bien employée. Une vie qui valait bien tous les efforts que nous lui avons consacrés. » À la fin de notre vie, tout cela va nous apparaître si court, cette toute petite période que nous aurons passée en tant qu'être humain. Nous voulons nous assurer que nous ne la gaspillons pas. Considérez votre vie de la même manière dont vous regarderiez un grenier, décidant ce que vous allez conserver, ce que vous allez jeter. Vous quittez une maison avec un grand grenier, mais vous ne disposez que d'une petite remorque pour déménager. Il faut que vous jetiez certaines choses afin de disposer dans la remorque de la place nécessaire pour les choses qui comptent vraiment à vos yeux. En d'autres termes, il y a des choses que vous devez abandonner afin de disposer du temps pour les choses qui comptent vraiment, qui font réellement une différence, qui donnent vraiment des résultats substantiels. C'est la vision pénétrante sous-jacente qui influence les enseignements concernant la renonciation. Lorsque vous pensez à cela, vous vous rendez compte que le temps passé de façon optimale est le temps passé à développer de bonnes qualités dans l'esprit, parce que ce sont des choses qui peuvent vous aider dans n'importe quelle situation. Vous devez consacrer un certain temps à conserver votre corps fort, mais avec le corps, vous atteignez un point de rendement décroissant. En fin de compte, il arrive un moment où quoi que vous ayez fait pour prendre soin de votre corps, il va vous quitter. Et parfois, il ne vous quitte pas de façon élégante. Parfois, la séparation est moche. Et dans ce genre de situation, vous serez content d'avoir passé du temps à travailler sur votre esprit. Parce que vous vous rendrez compte que c'est quelque chose qui vous concerne beaucoup plus directement. En même temps, la force de l'esprit, lorsqu'elle est vraiment développée, n'est pas obligée de s'appuyer sur la force du corps. Elle ne prend pas fin lorsque le corps meurt. C'est l'une des choses que vous découvrez en méditant. D'habitude, lorsque les gens sont fatigués, ils deviennent de mauvaise humeur. Ils se sentent accablés, vraiment traités injustement. Mais lorsque vous apprenez comment développer une plus grande sensation d'espace dans l'esprit, une plus grande sensation de bien-être dans l'esprit, après un certain temps, vous commencez à vous rendre compte que cela ne dépend pas du tout du niveau d'énergie qui règne dans le corps. L'esprit commence à disposer de sa propre nourriture interne, de son propre lieu interne pour se régénérer. C'est la raison pour laquelle nous passons autant de temps à rester assis, les yeux fermés, à travailler sur Sati, la concentration, et le discernement, parce que ce sont là les qualités qui permettent à l'esprit de se sortir de n'importe quelle situation. Lorsque vous voyez des gens qui le perdent vraiment, c'est cela qu'ils ont perdu. Ils ont perdu leur sati, ils ont perdu leur concentration, ils ont perdu leur discernement. Donc, vous voulez travailler à renforcer ces qualités. Quel que soit le temps que vous passiez à les renforcer, c'est du temps bien utilisé. C'est ce que signifie prendre refuge dans le Dhamma. Vous vous rendez compte que si vous vous focalisez sur quelques éléments, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter au sujet des autres choses. Vous pouvez vraiment faire confiance à la pratique pour vous sortir d'affaire. Souvent, notre désir de nous occuper de tout est une crainte que si quelque chose ne marche pas, alors quelque chose d'autre marchera. Et nous hésitons à nous impliquer dans une ligne de conduite particulière, de peur que cela ne nous permette pas de nous en sortir complètement. Nous limitons notre mise. Pourtant, au lieu de nous fournir une véritable protection, cette attitude finit par nous donner seulement une vie faite de briques et de brocs. Un petit peu de ceci, des fragments de cela, un petit peu de paix, un petit peu de richesse, un petit peu de santé, mais rien en quantité vraiment palpable. Mais en prenant refuge dans le Dhamma, nous prenons refuge dans la conviction que développer l'esprit nous permettra de parer à toute éventualité. Et parce que la pratique de la vertu, de la concentration et du discernement, toutes les graines du bonheur, se trouvent ici même, cela simplifie des choses. Cela nous permet également de consacrer toute notre énergie aux choses qui comptent le plus. Donc, même si vu de l'extérieur, il peut sembler que vivre en pratiquant le Dhamma comporte beaucoup d'épreuves, beaucoup de formes de renonciation, beaucoup de faire sans, ce n'est pas une vie appauvrie. Vous découvrez que la véritable richesse se développe à l'intérieur. Une des premières choses qui m'a attiré vers le Dhamma a été de voir mon maître Ajahn Phuong mener une vie très simple. Un tout petit monastère dans les collines de Rayong, seulement quelques huttes, pas beaucoup de monde, mais il était heureux. Vous pouviez ressentir une très forte sensation de bien-être émaner de lui. Et vous vous rendiez compte que cela ne dépendait pas du fait qu'il soit riche ou non, que cela n'était pas conditionné par le fait qu'il soit célèbre ou non, ou d'avoir beaucoup de disciples ou non, ou d'avoir des amis ou non, ou quoi que ce soit. C'était simplement dû au fait qu'il avait travaillé sur son esprit. Comme il le disait, il n'était pas né ainsi. Quelle que soit la forme de bien-être qu'il ait développée dans son esprit, elle provenait de la pratique. Et lorsque vous commencez à connaître la pratique, que vous commencez à connaître le Dhamma, vous vous rendez compte exactement qu'il englobe absolument tout. Une fois que ces qualités sont développées dans l'esprit, elles permettent de gérer toutes sortes de situations. Les qualités de sati, de discernement et de concentration sont fondamentales dans toute habileté. Elles sont fondamentales pour notre capacité à gérer n'importe quelle situation. Donc, en nous focalisant sur ces quelques éléments, nous nous occupons vraiment de tout. Ils englobent tout. Une des bonnes choses en ce qui concerne le Dhamma, c'est qu'il est si vaste. Vous pouvez y consacrer toute votre vie. C'est quelque chose qui vaut la peine que vous y consacriez votre vie, parce qu'il vous enseigne ce que vous avez besoin de connaître, qu'il vous enseigne les habiletés dont vous avez besoin pour gérer tout ce que la vie vous réserve et plus. Donc, même si une vie de renonciation peut sembler être une vie réduite à l'essentiel et étroite, en fait, ce n'est pas du tout cela. Elle s'élargit parce que vous ne limitez pas l'esprit à des questions étroites et mesquines. Vous gérez les quelques questions qui sont réellement importantes dans la vie, qui recouvrent tout. Il y a des années, lorsque j'étais un jeune moine, j'ai dû passer des examens sur le Dhamma destiné aux moines. Les examens qui se déroulent chaque année en Thaïlande. Et une partie de chaque examen incluait la rédaction d'un court enseignement à propos du Dhamma. Vous donnez une phrase du canon Pali, ou quelques vers du Dhammapada ou du Sutta Nipata, et vous deviez développer ce thème particulier en introduisant une autre citation liée au Dhamma avant de terminer. La première année, vous deviez introduire une citation. La deuxième année, deux. Et la dernière année, trois. Pour vous préparer à cette partie de l'examen, on vous donnait un livre avec des citations du Dhamma pour que vous les mémorisiez. Et comme j'étais un Américain typique, je n'avais pas vraiment beaucoup pratiqué la mémorisation à l'école. Les petits novices mémorisaient des pages et des pages de ces citations du Dhamma, mais je me suis rendu compte que dans mon cas, il serait sage de choisir seulement quelques citations qui pourraient s'avérer utiles dans toutes les circonstances. Celle que j'ai trouvée utile chaque année était un passage du Dhammapada. Si vous voyez qu'un bonheur plus grand dépend de l'abandon d'un bonheur moindre, alors soyez prêt à abandonner ce bonheur moindre au profit du bonheur plus grand. C'est un principe qui s'applique à toutes les situations, et c'est celui qui sous-tend les enseignements à propos de la renonciation. En fait, il sous-tend l'ensemble de la pratique. Se rendre compte qu'étant donné que nous faisons des efforts dans notre vie, nous pouvons alors aussi bien faire des efforts qui nous donneront des résultats tangibles. Pensez au nombre de personnes que vous connaissez et qui ont mené une vie très active, mais qui ensuite, vers la fin de leur vie, se tournent vers leur passé et qui disent qu'elles n'ont rien de tangible à mettre en face de toutes ces activités, de tous ces efforts, de toute cette souffrance. Mais parmi ces personnes, vous n'en trouverez aucune qui a pratiqué le Dhamma. L'effort que l'on fournit en pratiquant le Dhamma est bénéfique à long terme, en termes de développement des qualités de l'esprit, en nous ouvrant à de nouvelles dimensions que nous n'aurions même pas imaginées autrement. Donc, lorsque le Dhamma requiert que vous abandonniez des choses, souvenez-vous qu'il s'agit d'un échange, qui consiste à abandonner un bonheur moindre pour un bonheur plus grand. Vous abandonnez l'habitude de disperser votre énergie en échange d'une meilleure habitude, une habitude qui consiste à vous focaliser sur les qualités de l'esprit, qui vous permet de vous sortir de toutes les situations et de vous emmener au-delà des situations. C'est la raison pour laquelle il est si important de réduire les choses à l'essentiel et d'en rester à l'essentiel. Les choses essentielles recouvrent tout, elles gèrent tout, elles peuvent vous fournir le refuge approprié. Donc, même si cela peut sembler un peu simpliste, nous restons assis ici, en nous concentrant sur quoi? Le souffle, qui entre et qui sort. Cela peut ne pas avoir l'air si profond que cela, ou très stimulant d'un point de vue intellectuel, mais c'est une des choses essentielles. Non seulement la respiration en tant que telle, mais également les habitudes que nous développons lorsque nous maintenons l'esprit concentré sur la respiration. Sati, l'attitude d'alerte, la persistance, la clarté de l'esprit. Ces habiletés sont fondamentales pour toutes les habiletés dans la vie. Donc, assurez-vous que vous les maîtrisez vraiment. Quel que soit le temps que vous consacrez à faire d'autres choses et que vous deviez abandonner afin de maîtriser ces habiletés, c'est un échange sage, un échange qui vous laisse avec quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que ce que vous avez abandonné, quoi que ce soit que vous abandonniez. C'est quelque chose sur quoi vous pouvez compter, parce que ce sont là des qualités qui vous apprennent à compter sur vous-même. Il y a ce passage, le soi est son propre refuge. Cela signifie qu'en fin de compte, vous devez être votre propre refuge, et que vous pouvez être votre propre refuge seulement si vous développez ces qualités qui vous rendent fiable. Si vous comptez sur elles, vous trouverez en fin de compte qu'elles vous permettent de compter sur vous-même. C'est une promesse qui accompagne une garantie vieille de 2600 ans.